Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et en ce mardi soir, 7 mai 2024, bon week-end à vous toutes, à vous tous, bonnes vacances aussi. Peut-être êtes-vous déjà sur la route dans les embouteillages, peut-être êtes-vous avec BFM Business, merci d'être là. Le débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h30 avec Claudia Cohen, journaliste au Figaro, Jérôme Colombin, journaliste créateur du podcast Monde Numérique, Bruno Guguier-Minetti, journaliste animateur d'un autre podcast que je vous conseille et que je vous recommande, Mon Carnet de l'actualité numérique, et Frédéric Simotel. On va parler maintenant donc de ces gadgets qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et justement, encore un échec annoncé pour un gadget qui a été dopé à l'IA. C'est le Rabbit. Vous savez, ce majordome de poche.
On ne sait pas comment les appeler, ces trucs.
À l'intelligence artificielle, c'est ça exactement. Qui avait mis la planète tech en ébullition en début d'année. On s'en souvient, on en parlait beaucoup au CES de Las Vegas. Mais les premiers retours ne sont pas vraiment bons. On va écouter les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business. Et puis, on revient juste après, puisque Jérôme a pu le prendre en main, ce Rabbit.
Petit peu de déception. Alors, il y a des choses qui fonctionnent quand même, mais c'est vrai que globalement, la promesse n'est pas vraiment tenue. Ceux qui ont pu le tester, c'est pas encore mon cas, mais les journalistes américains qui sont les early adopters, c'est eux qui reçoivent les premiers modèles en général, disent que ça fonctionne pas très très bien. Par exemple, ceux qui ont essayé de commander un VTC, bon bah la plupart du temps, la voiture elle arrive pas au bon endroit, faut sortir le téléphone de sa poche pour reconfigurer tout ça. Donc en fait, ça tue un peu l'intérêt d'avoir cet objet. Vous avez plein de fonctionnalités, le fait que la batterie aussi se décharge extrêmement rapidement. On peut aussi se dire, pour ceux qui ont testé par exemple la commande de nourriture, parce qu'on peut aussi faire ça, et ben on se rend compte que le petit écran il permet d'afficher que 3 ou 4 oui. options du menu, donc c'est pas génial, là encore vaut mieux sortir son smartphone. Et en fait il y a aussi ce truc qu'on avait un petit peu pressenti, même à l'époque, et je me souviens j'en avais aussi parlé, c'est on se demande à quoi sert l'appareil à proprement parler. Est-ce que finalement toute la partie logicielle on pourrait pas simplement
dans un téléphone
oui, l'intégrer sous forme d'application dans un smartphone? Et d'ailleurs il y a un internaute qui l'a fait, il a bidouillé un petit peu, il a réussi à récupérer l'intérieur du Rabbit, il l'a intégré dans un smartphone Android et ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas vraiment besoin de cet appareil. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est acheté, il y a des mises à jour logicielles qui vont arriver. Et ce qui fonctionne bien, c'est la reconnaissance visuelle, c'est-à-dire qu'avec la petite caméra embarquée, vous pouvez analyser votre environnement. Par exemple, le plat que vous apprêtez à manger, il va vous dire le nombre de calories qu'il y a, ce genre de choses.
Bon, voilà pour ce Rabbit. Écoutez, c'est pas réjouissant, hein, tout ça pour un appareil qui, voilà, vient juste de sortir. J'ai l'impression que le Rabbit va retourner dans son terrier rapidement. Ah,
Elle est facile.
Bon, alors, en revanche, nous, on en parle, mais Jérôme, ici présent, je sais pas si Bruno l'a testé. Tu l'as eu en main, Bruno? Toi, qui es aussi de l'autre côté de l'Atlantique? Pas encore. On t'entend pas, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, même avec les signes, tu es parfait. On va essayer de retrouver le son pour notre ami Bruno, s'il vous plaît. Jérôme, alors, le Rabbit.
Le Rabbit ou les deux en même temps?
Parce que alors, on peut commencer par le Rabbit et après on reviendra sur les iPins.
Oui, mais si on rentre dans le détail, effectivement, on peut commencer par le Rabbit. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces deux produits, qui ne sont pas du tout faits par la même société, ils ont un air de famille, ils ont un ADN commun.
Et on les compare souvent.
Et c'est normal parce qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, ce sont les tout premiers petits appareils créés pour utiliser l'intelligence artificielle générative. C'est des petits assistants connectés à ChatGPT et l'idée, c'est de pouvoir accéder très facilement à ChatGPT. Alors après, le Rabbit, effectivement, moi je l'ai essayé, il est très joli, donc ça a été créé
comment
par...
Comment tu l'as eu en main d'ailleurs? Quelqu'un l'a acheté?
Alors enfin... oui, je vais te raconter ma vie, mais voilà, j'étais chez des membres de ma famille qui sont très 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 geeks aux États-Unis et qui l'avaient commandé dès qu'il a été annoncé. Okay.
Donc ils l'ont reçu.
Et donc ils ont reçu les deux, et quelle chance, c'était pile quand j'étais sur place, j'ai fait le déballage, le truc, le machin.
Incroyable ça.
C'était un petit peu prévu, mais bon, voilà.
À croire que le monsieur Rabbit s'est dit, il y a Jérôme Colombin qui est arrivé à Miami.
Exactement. Alors le Rabbit, je l'ai eu moins longtemps, je l'ai eu 48 heures.
Ah, pas mal quand même.
iPin, j'ai utilisé une semaine, ouais. Ouais. Et alors, bon, moi j'aime bien, j'ai bien aimé parce qu'il est vachement joli, il est assez quali. C'est fait donc par cette société de design qui s'appelle Teenage Engineering, qui est très connue aux États-Unis, qui fait des très 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 beaux produits plutôt orientés sur le son. Ils font des espèces de baladeurs, audio, tables de mixage, avec un design de folie. Et quand tu es geek, tu adores ces produits-là. En revanche, c'est pas super ergonomique. Et le coup de la petite molette avec le bouton sur le côté, j'ai essayé de le prendre de tous les côtés, et c'est pas très 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 pratique. Mais après, le problème qu'ils ont l'un et l'autre, ces deux produits, c'est qu'ils ne marchent pas très bien.
Est-ce que tu as, par exemple, l'exemple qu'on donnait toujours du Rabbit, c'était
Il décrit une scène.
T'es dans un endroit, tu veux commander un Uber, etc. Enfin, des trucs comme ça. T'as essayé de lancer des scénarios par la voix? Est-ce qu'il comprend le français, tiens, par exemple?
Le Rabbit, je ne crois pas. Le Aipin, c'est sûr qu'il ne comprend pas le français, il ne comprend que l'anglais. Et le Rabbit, je crois que non, il ne comprend que l'anglais également. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est ce système de description d'une scène. Tu appuies, tu lui demandes de décrire-moi la scène, et il t'explique. Alors voilà, oui, en effet, là, il y a un bateau, il y a la plage, il y a du soleil. Il y a une personne qui est dans une ambiance décontractée, elle a l'air de se reposer. Enfin, tu vois, ça va loin, la description du truc.
À quoi ça sert? Ça bleu.
Hein? Non, oralement. Oralement. Ouais, oralement.
Avec une voix.
Avec une voix de synthèse. Nous,
on l'a vu tourner ce midi sur un iPhone avec GPT, mais c'était pas la voix. Mais tu prends une photo, il te décrit ce qu'il y a.
Oui, bah parce qu'effectivement, ce que font ces appareils, on peut le faire avec un smartphone. Et c'est pour ça que je te disais off quand Anthony disait oui, en fait, on peut, c'est une simple appli sur un. Mais so what si c'est une simple appli sur un smartphone? Où est le problème? C'est un appareil dédié. Ce sont des sous-smartphones. Bien sûr qu'on peut faire la même chose avec un smartphone, et un smartphone mais fait 10 milliards de choses de plus.
Alors, toujours ton smartphone dans ta poche.
Ben ça sert à quoi? Là, je reviens
Surtout, le Rabbit n'est pas destiné à remplacer le smartphone, puisqu'il est connecté au smartphone, je crois, non?
Non. Alors, il peut marcher en Wi-Fi, ou bien on peut prendre un abonnement cellulaire en plus.
Ok, ouais. Comme les Aipin.
Les Aipin, l'abonnement cellulaire est obligatoire, et il est fourni avec. Voilà, ça coûte $24 par mois. Et. Oh. Oui, Claudia.
Moi, je vais faire ma techno-sceptique. L'avantage de la technologie, à mes yeux, c'est de nous permettre de pouvoir faire beaucoup de choses avec le moins d'appareils possible. Et donc, j'ai assez de mal avec ces gadgets, pour ma part, et je pense peut-être beaucoup de gens, ces gadgets qui, en fait, t'encombrent plus qu'autre chose et qui ne présentent pas d'intérêt particulier. En fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait un marché là-dessus. En plus, ça a un prix à chaque fois, ces gadgets. Donc, c'est...
Mais en fait, je pense qu'il y a un marché. Il y a un marché pour les early adopters, comme on dit. Les fans de gadgets, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à débourser plusieurs centaines de dollars pour avoir le petit gadget.
À chaque nouveau gadget
En tout cas, ceux qui ont les moyens de se le faire. Si tu veux, je pense que ça représente quand même un bassin de population au niveau mondial qui est assez important. Mais après... c'est fini. C'est-à-dire que si ton objet ne sert pas à grand-chose et ne révolutionne pas ton quotidien, c'est que les amateurs de gadgets qui vont se
Oui, mais tu peux inventer des choses. Par exemple, le Rabbit, pourquoi ne pas imaginer le customiser, par exemple, pour le donner à un enfant, fournir ça à un enfant pour qu'il puisse communiquer, envoyer des messages, interroger l'intelligence artificielle.
Il coûte combien?
Il coûte 200 euros. 200 dollars.
Achète-lui une tablette.
200 dollars. Une tablette, on va retomber sur le problème relevé la semaine dernière par le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron.
Oui, c'est le temps d'écran.
Les enfants, et tu leur donnes une tablette pour aller à l'école. Et
oui, c'est vrai, Fred, c'est pas bien ce que tu as dit.
Tu peux brider le truc quand même. Enfin, c'est ces tablettes-là, on peut les
Là, c'est déjà bridé. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté. C'est un appareil de plus, oui. Mais alors, tu vois, le AI Pin, donc, qui se porte accroché aux vêtements, je l'ai utilisé beaucoup plus longtemps. Pendant plusieurs jours, je me suis baladé avec. Alors, c'est amusant parce que même aux États-Unis, ça fait parler parce qu'ils n'ont pas vu. Donc tout le monde me demandait ce que c'était. Et c'est, je me suis surpris de temps en temps, tu vois, pour prendre une photo, tac tac, tu double-cliques, tu prends ta photo tout de suite. T'as pas besoin d'aller chercher ton smartphone, machin, etc. Pareil pour demander quelque chose.
Tu double-tapes sur l'appareil et ça prend la photo.
Oui, je me souviens plus exactement des raccourcis, mais je crois que c'est celui-là.
C'est parfait pour espionner les gens, par contre.
Non, parce que t'as une lumière qui s'allume. Tu peux aussi prendre des vidéos, mais c'est limité. C'est des séquences de 30 secondes, mais c'est assez sympa en fisheye quand t'es avec des amis. C'est assez convivial. Et puis, c'est un assistant, c'est ChatGPT. Tu veux lancer ChatGPT sur ton smartphone? Bien sûr que tu peux le faire. Tu vas sortir ton téléphone de ta poche, tu vas aller lancer l'appli, tu vas, etc., etc. Là, c'est immédiat. Ou appelle-moi un Uber. Où est le, je sais pas quoi, où est la pizzeria la plus
proche? Je veux bien, moi. Ça marche. Appelle-moi un Uber. Est-ce que
alors,
ça marche?
Alors, c'est là où il y a des petits problèmes.
Alors, attends, avant que tu nous le dises, tiens, j'aimerais avoir le point de vue de Bruno. Ça t'excite, ces petits appareils, Bruno, ou tu es plutôt comme Claudia, bof?
Je vais manger du côté de Claudia. Désolé, Jérôme.
Oula, ça c'est une amitié qui est en train de se fractionner là. Attention.
Excusez-moi, les garçons, pour
tout ça. Non, voilà, mais une femme entre Bruno et Jérôme. C'est pas beau.
Non, mais faut garder en tête que, puis je reviens sur ce que tu disais, il y a un marché pour ça. Pensez juste au Vision Pro qui coûtait une fortune et ils ont quand même réussi à vendre ce qu'ils avaient produit en main. Là, ça commence à réduire un peu la production parce qu'il n'y a pas un engouement phénoménal, mais à un coût de 300 quelques dollars américains, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Ça, c'est pas le problème. Mais de l'autre côté, et ça, je trouve ça intéressant aussi de le regarder, je suivais l'histoire du AI PIN de Human et ils ont eu de la difficulté cette semaine parce que lorsque les gens ont commencé à vouloir. Parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de commandes qui n'ont pas été livrées. Mais quand les gens, finalement, suite aux mauvaises critiques face aux produits, quand les gens se sont mis à annuler leurs commandes, les gens de AIPIN ont dit « Attendez, on veut savoir pourquoi vous annulez votre commande et après, on va annuler votre commande. » Alors, vous auriez dû voir la réaction des gens. Ça n'a pas pris de temps. Il y a eu toute une discussion qui s'est faite sur les réseaux sociaux. Et là, les gens de Humane ont réajusté le tir. Mais c'est pas qui veut qui peut lancer et réussir le lancement d'un produit. Donc, il y a eu... tu le disais... Au début, au mois de janvier, il y a eu tout un phénomène, un engouement, mais maintenant que c'est en train de se rendre sur le marché, une fois qu'on a pris notre photo avec deux touches sur le côté, si on a un téléphone dans les mains, dans la poche ou dans un sac, on va rapidement aller de ce côté-là.
Non, t'as ChatGPT au revers de ta veste, je suis désolé, ça c'est une révolution.
On a ChatGPT au revers de sa veste. Oui. Je crois que c'est ce qu'on retiendra de ce Tech & Co ce soir. Juste un truc. Parle-nous de cette projection. Là,
alors,
qui a l'air un peu.
Très bonne question.
J'allais dire approximative.
Non, elle n'est pas du tout approximative. Ça, c'est vachement bien.
C'est vrai.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que
tout le monde s'est moqué de ce truc-là. Hein. Mais moi tous les tests que j'ai vus.
Les Français se sont moqués. Les
non.
Américains sont beaucoup plus fans.
Ah oui?
Moi, je l'ai montré à des Américains. C'est moi, un petit Français, qui l'ai montré.
Ah bah, tu vois, c'est bien.
Qui a fait le pitch à des Américains, des jeunes, et ils étaient waouh, ils n'en revenaient pas. Parce que ce système d'affichage laser, évidemment, si c'est pour regarder une photo, ça n'a pas de sens. Mais pour interagir avec l'appareil, pour afficher des petits messages courts, etc., c'est super inventif, ça marche très bien, la définition est très bonne. Et puis personne ne fait ça, quoi. C'est un truc complètement nouveau d'afficher quelque chose dans le coin de sa main.
Non, mais est-ce que l'enthousiasme qui est communicatif, à ton avis, c'est parce que c'est un nouveau produit qui en fait défriche des chemins que nous, depuis tant d'années qui suivons la tech, n'avons jamais vus. Ou est-ce que c'est vraiment un produit qui va bouleverser notre quotidien? Parce que je pense que c'est pas la même chose, tu vois.
Oui, ça va pas bouleverser notre quotidien. Alors, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'il marchait pas très bien. Il avait plein de bugs, il chauffe, il a des problèmes de connexion. Puis comme il n'y a pas d'écran, on ne sait pas qu'il a des problèmes de connexion, etc., etc.
Commercial.
Mais il est sorti du four trop tôt.
Alors, je me sens pas bien. Appelle une ambulance. Vous n'êtes pas connecté. Bonne journée.
C'est pour ça qu'il a été démoli par ce YouTuber là. Marcus Brownlee, juste titre, il faut pas l'acheter ce produit, il faut pas l'acheter. 700 $ plus $25 par mois, il faut pas l'acheter. Mais c'est bien qu'il l'a inventé. Et pourquoi ils ont inventé ça aussi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de compétition, enfin on le sait, il y a une compétition autour de l'intelligence artificielle. Chacun veut avancer ses pions, et ben ça c'est des pure players, des nouveaux entrants qui essayent de trouver aussi une nouvelle niche pour utiliser et pour nous fournir des applications d'intelligence artificielle.
Ou tout simplement se faire connaître et puis revendre leurs brevets ou avoir un catalogue de brevets.
Mais le truc est vachement bien fini, il est très, très élégant, très joli, il suffit d'aller sur le site web, de voir les tutos qui ont été faits. Ça n'a pas été fait à la va-vite, ils ne sont pas allés au bout, ils prennent les utilisateurs pour des bêta-testeurs.
Qui, hein, le couple d'entrepreneurs, d'ingénieurs, ils sortent de chez Apple. Hein,
de chez Apple et du design. Le problème, c'est qu'ils ont sans doute un peu trop soigné le design et ils n'ont pas assez investi sur les ingénieurs réseau pour
Après, ça peut être des usages. Moi je pense à des infirmières dans les hôpitaux, tu vois.
Ouais, mais bien sûr,
c'est autour de ça, je pense
tout
que c'est ça. Et par contre, pour le Rabbit, moi je vois plus un système qui pourrait
s'adapter. Quand tu vois les finances des hôpitaux, 700 balles le AIPIN pour chaque personnel soignant.
Les
hôpitaux américains vont bien.
Hein. Et le Rabbit, je sais pas si c'est la partie logicielle qu'il faut utiliser pour, dans une voiture, avoir accès de façon plus simple, par exemple, ce genre de choses. Mais je trouve qu'on a eu tellement des. Et c'est la pas mini télé, la mini radio, la mini machin. Et bon, ça, je sais, c'est connecté. C'est le...
Mais voilà, c'est pas
quand on voit, quand après, on va dire, ah, ce serait bien si tout ça était dans. Qu'est-ce qu'on cherche?
Mais regarde,
dans...
on
n'achète pas un téléphone, un iPod, un appareil photo, un machin, tout ça. Non, je veux tout dans le même. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement tous dans le même que.
Mais ta watch, tu en es bien content et tu fais beaucoup de sport, Fred. Est-ce que tu emportes ton smartphone quand tu vas courir?
De moins en, enfin non, pas, voilà. Enfin je cours avec une watch Apple avec une autre marque.
Et pourtant elle fait pas aussi bien qu'un smartphone, mais dans certaines circonstances c'est un produit qui est un peu, qui a moins de fonctionnalités, mais qui remplit exactement la fonction que tu attends à un certain moment. Je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi.
Bon, espérons que ces produits arrivent à traverser l'Atlantique, parce que bon, voilà, il faut ou aller aux États-Unis ou je sais pas moi connaître peut-être les fondateurs.
C'est bientôt mon anniversaire, je préfère l'iPad.
Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'en Europe on voit pas quand même de petites initiatives comme ça, de produits sortir ou de projets en test.
Le hardware, c'est très compliqué déjà, et je pense qu'en Europe, c'est encore plus compliqué, on voit. Fabriquer un appareil, poser la question à notre ami Stan Larocque, qui fait son masque de VR, qu'on aime beaucoup, qui vient ici, qui se bat comme un beau diable pour faire vivre son masque, parce que...
Il est positionné B2B.
Mais après, créer
mais c'est dommage parce que du coup c'est les Américains qui testent le marché pour voir ce que les gens aiment aussi pour sortir après derrière le bon produit. Il n'y a pas de chance en fait de tester pour des Européens les produits.
Et puis tu vois, je demandais à Jérôme justement hors micro quel était l'aspect du Rabbit, parce que c'est vrai quand on voit le Rabbit comme ça on a l'impression
oui ça fait un peu Fisher Price,
ça fait un peu le jeu Fisher Price ou le jeu qu'on
c'est
a
bien
chez McDo.
Fisher Price, attendez, c'est
non non, mais ou le jeu qu'on a chez McDo, tu vois, quand tu vois comme ça un espèce de gros plastique, c'est pour ça que quand tu l'as dans la main, tu vois quand même qu'il y a un certain design. Et le risque en Europe, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas l'argent pour faire un truc aussi fini, aussi...
On a Stark. On a
pour
Stark.
Le design, mais
on
pour la
faire
la
de super
derrière.
De super trucs. Ouais.
Bah, il est cher, Stark aussi. Hein.
Ah bah écoute, bah voilà, il fait un effort.
Bah oui, pour aider l'Europe.
Philippe, il fait un effort pour voilà, la souveraineté et le patriotisme européen.
Non, mais pourquoi pas, équiper des chambres d'hôtel avec ça, tu vois, avec les trois applications où les gens se promènent pour commander.
Il y a plein d'applications de niche, je suis sûr. Pas demain, mais après-demain.
On a encore un peu le temps, alors. Bruno, on a terminé là-dessus. On enchaîne peut-être sur... comme tu veux, tu me dis. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, en ce qui concerne le souhait de Fred, il faut penser que dans les hôtels, il y a déjà des assistants personnels dans les hôtels haut de gamme où on peut avoir des conversations puis avoir ce genre d'outils-là. Mais tous les services dont Jérôme parlait et cet accès à ChatGPT, moi, je l'attends, mais dans des montures lunettes. Et ça, je sais qu'il y a des entreprises qui sont en train de préparer des produits qui vont être lancés dans les prochains mois. Alors, à ce moment-là, je pense que là, ça vaudra la peine d'investir. Mais pour le moment, je pense que c'est d'avoir un bidule de plus dans la poche. J'ai plus de place, moi.
Les Ray-Ban Meta vont être mises à jour, là, la seconde version.
Super intéressant.
C'est pas mal.
Vous allez pouvoir interagir avec la voix, discuter avec vos lunettes.
Enfin, tout le monde ne porte pas de lunettes, hein.
Non, c'est clair.
Mais tu les mets dans des solaires.
Mais au mois de novembre à Paris, t'es solaire.
Oui, bon, tu les mets l'été.
Et voilà.
C'est pas idéal, hein.
Plus vieilli, plus tu...
Non, mais c'est plus pratique déjà que le truc à te...
Déjà, au mois de juillet à Paris, des fois, c'est compliqué. Alors, imagine au mois de novembre. On change de sujet, on reste dans l'IA, les amis, pour évoquer cette interview exclusive que vous avez commise tous les deux, à la fois Bruno et Jérôme. Il s'agit de Yoshua Bengio. Alors, vous le connaissez peut-être pas, moi je ne le connaissais pas sincèrement avant que de le découvrir via votre podcast. C'est l'un des papes de l'IA, une personnalité qui fait partie des 100 personnalités du magazine Time. On parle beaucoup de Yann Lequin, de Luc Julia, etc. C'est un gars de ce niveau-là.
Ah,
hein,
complètement.
On est d'accord.
Voilà. Oui, absolument. C'est le co-religionnaire de Yann Lequin et de Geoffrey Hinton. Ils ont eu tous les trois ensemble le prix Turing, donc le prix Nobel de l'informatique en 2018.
Et alors, vous l'avez interviewé.
Je l'ai interviewé en visio, ça a été long, mais c'est une collaboration entre podcasteurs, en effet, et on a réussi à obtenir cette interview. Il nous a accordé, 30 minutes. Alors, c'est un monsieur qui parle, dans les médias. Il est pas ultra rare, mais il sélectionne, quand même.
D'accord.
Il parle pas non plus à tout le monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le positionnement et la vision et le travail de Yoshua Bengio. Parce que vous savez qu'en matière d'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui les confiants et les inquiets. les confiants et les joyeux, c'est Yann LeCun qui dit mais tout va bien les amis, l'IA ça va être que du bonheur pour les 50 ans qui viennent, et Joshua Benjo qui dit on
attention, on va droit dans le mur.
À la catastrophe. Et en tout cas, la science n'est pas capable de dire aujourd'hui s'il n'y a pas des dangers avec les IA du futur. On ne parle pas de ChatGPT d'aujourd'hui, on parle des IA du futur.
Mais alors Bruno, puisque vous avez mené cette interview conjointement, je crois bien, les dangers c'est quoi? C'est la casse sociale, le danger que la machine prenne le dessus sur l'homme. Quels sont les frayeurs en fait de ce monsieur?
Ouais. Ben, en grande partie, moi, je dirais que les frayeurs de Joshua Benjo quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à développer, et il le voit, il en est conscient, une intelligence artificielle qui va être beaucoup plus puissante que ce qu'on est prêt à être capable d'encadrer. Et c'est pour ça que lui, il va de par la monde et il conseille les grands gouvernements, incluant les Nations Unies, pour les aider à se préparer et à encadrer. Et d'ailleurs, il évoque dans l'entrevue la constitution qui est avancée, la IA Constitution, par les gens de Anthropic, qui sont les créateurs de Claude 3, et qui veulent arriver à vraiment encadrer, mais de façon formelle, la création, le développement des nouvelles intelligences artificielles qui risquent d'être encore du domaine du super puissant. Et donc, parce que c'est là où l'homme s'est craint. Il a peur de ce que les gens pourront faire avec ce type d'outil qui sera probablement même plus intelligent que certaines personnes qui habitent sur cette planète. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? Alors, si on ne prévoit pas un encadrement avant que ça arrive, on risque d'avoir des fâcheux ennuis. Alors, c'est pour ça que lui travaille beaucoup dans ce sens-là, à conscientiser, mais aussi dans ses travaux de recherche avec sa bande d'étudiants qui sont tous des post-docs un petit peu à travers la planète pour arriver à créer quelque chose qui va permettre de s'assurer là, qu'on encadre bien le développement de l'IA.
Alors, rappelons, hein, cette interview, vous pouvez la retrouver dans mon numérique et dans mon carnet de l'actualité numérique, hein, déjà en ligne.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Interview conjointe.
J'ai pas encore écouté, mais ce que j'ai pu lire sur lui, il fait un peu peur. Enfin, je trouve qu'il fait partie des gens qui...
Inquiets.
Plutôt anxiogènes, hein, parce qu'il veut... Bon, il y a, comme beaucoup, de toute façon, une structure pour de surveillance, ça, il en faudra. Mais je trouve qu'il va un peu loin, moi.
Ce
que j'ai pu lire, j'ai pas encore entendu.
Il avait co-signé le fameux moratoire, fameuse demande de moratoire.
Moi, je le trouve assez... Évidemment, il y a les discours alarmistes sur des nouvelles versions d'IA qui pourrait être de plus en plus dangereuse, mais par contre sur le discours qu'il a eu, alors pour être très honnête, j'ai pas écouté chez vous, mais effectivement il avait donné d'autres interviews aussi, le discours qu'il a par rapport au monde du travail, je le trouve assez réaliste, parce qu'aujourd'hui on parle du remplacement de certains travailleurs, de l'automatisation des tâches dans les bureaux, comme on a connu il y a quelques années ces remplacements dans les usines, et c'est vrai que je pense que le jour où le coût d'embauche d'un humain devient supérieur en fait au coût d'embauche de la machine, de ces IA, là la question se posera vraiment, et je trouve pas ça ubuesque d'alarmer là-dessus dès maintenant, parce qu'en fait ce sera dans les prochaines années assez proche. Donc ce discours de la crise sociale, je trouve qu'il est assez réel et surtout assez finalement court-termiste, alors que les autres inquiétudes, je trouve, autour de l'IA, qui est des mauvaises intentions de l'IA utilisées à mauvais escient. Bon, ça, je trouve que c'est un peu plus loin de nous. Alors que sur la crise sociale potentielle que ça pourrait déclencher, je trouve ça assez réaliste, et je trouve ça assez rafraîchissant aussi d'entendre ces discours communiqués dans les médias, dans des interviews comme ça aussi.
Moi, l'intéressant, c'est que tous ces spécialistes ne sont pas forcément d'accord. C'est ça aussi qui est très intéressant, je trouve.
Les deux choses qui me font peur, c'est les deepfakes, tout ça, parce que je trouve que là, on
a des informations.
C'est justement cette confiance qu'on peut avoir. Aujourd'hui, avec François, on a rencontré un spécialiste d'IA, et c'est ce qu'on disait ce midi. On disait, c'est à partir du moment où on va laisser un peu trop confiance à l'IA, parce qu'on va dire, finalement, elle se débrouille maintenant sans moi. Il n'y aura plus l'intervention de l'humain. Et là, moi, c'est ça qui me fait peur. Mais c'est qu'un jour, on dise, tiens, ton programme, il bug un peu. Écoute, j'ai un peu laissé développer le truc, comme il s'est bien débrouillé. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça qui me fait peur.
Et ça, c'est l'apéritif, les amis.
Oui, c'est l'apéritif. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr.